R22.
Tout le monde.
Antenne. Point bascule.
On était en dessous du niveau de la rivière.
Pendant des années, personne n'en parlait. Même pas les journaux, pas les télévisions, rien. Au début, c'était annoncé comme un projet pour alimenter en eau les habitants et aussi les terrains agricoles. Ça leur a pris 20 ans quand même, avant de l'aboutir, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Tu peux circuler n'importe où, tu vois pas cette canalisation. Ce qui se voit pas, n'existe pas.
Le tunnel a été creusé par cette machine, ça s'appelle un tunnelier. C'est très très haut ça, je crois que c'est 2,80 m de diamètre. Il fait 200 mètres de long. Et ici, vous voyez, il y a des godets et là, il y a des molettes. Les molettes vont frotter la roche, arracher des copeaux et le godet récupère les copeaux, le bascule sur un tapis roulant. Le tapis roulant tombe dans un train qui est garé à l'intérieur du tunnelier et qui va repartir du tunnelier sur des rails jusqu'à l'extérieur de la galerie et ils vont être vidés. Ensuite, il revient avec des voussoirs, c'est des anneaux en béton préfabriqués qu'on assemble au fur et à mesure que le tunnelier avance. Il y a une partie du tunnelier, une partie du corps qui est ouvert et ça permet de fixer les voussoirs après le creusement. Bon, il y a une partie de la tête là qui sert au creusement, une zone ouverte pour fixer les voussoirs, derrière il y a le train.
L'histoire, c'est la géographie en mouvement.
Il faut dire qu'à La Réunion, hein, on est dans les records mondiaux de précipitations. Hein. Il est tombé 1825 mm en une journée, sachant qu'en Paris, il tombe en moyenne 640 mm par an. Tout le cycle de vie, on va dire, d'un phénomène cyclonique fait encore l'objet de recherches assez actives encore. On n'a pas tout compris. Les vents sont pas encore trop forts. Là, on voit bien le mur de l'œil. Hein. On voit qu'il n'est pas très large.
là, tu vois, on a passé en vigilance.
À ce stade-là, la machine commence à s'envoler. Voilà, la configuration devient plus affirmée. Voilà, on va avoir déjà une amorce d'un mouvement tourbillonnaire qui est omniprésent. Chaque rafale, c'est de plus en plus fort. Ça, c'est des vents à vitesse de 30 km/h. C'est assourdissant. Au moment où le cyclone hyacinthe a atteint un point culminant, toutes les mares de Grand Sinette étaient remplies d'eau dans le bitume de la route. L'eau faisait éclater le bitume comme ça, donc ça sortait de partout. Tu commençais à voir l'eau sortir de la falaise.
Par-dessous les portes et toutes les pièces commençaient à avoir 1 cm, 2 cm. On a commencé à essayer de faire sortir l'eau, mais on ne pouvait pas faire sortir l'eau très très facilement. Donc les voisins sont venus, ils nous ont dit qu'il faut faire un trou dans le mur, sinon l'eau va monter, ça risque de faire une telle pression que la case, il y a des pièces qui risquent d'exploser. On a fait une trouée pour que l'eau passe et continue à s'évacuer. Voilà l'histoire de la maison qu'on a dû casser. On ne sait pas, en se réveillant, dans quel état sera le quartier, ta maison, la cour, la réunion. C'est une sorte de moment de suspension dans le temps.
En face de la mairie annexe, il y avait un grand hangar. Et là-dedans, ils avaient mis les morts, comme une chapelle ardente, quoi. Depuis le matin, ils étaient en train de fouiller la boue, comme ça, ils ramenaient les morts. Et donc, je suis descendu avec un des groupes qui descendaient. Donc, je me souviens encore, on a trouvé ce corps dans la boue, comme ça, la figure aplatie, tu vois. On l'a lavé avec l'eau des caniveaux, comme ça, qui coulait encore. On l'a mis dans des sacs de jute. Hein. Puis après, on a mis sur un bambou, un grand bambou. Et puis voilà, on s'est relayé. Donc, on porte le truc en remontant du fond de la rivière jusqu'à Grand Sinette. Et puis on a mis ça dans la chapelle. Voilà, donc les gens vivent avec ça.
Atteindre un bol et larmes, ils vivent. Ils ne demandent pas plus. Ils savaient qu'à chaque cyclone, ça valsait. Mais pour eux, c'est comme s'il y avait une communion avec la nature, d'une forme de fatalité, quoi.
Mais le cyclone Hyacinthe avait amené plein de déblais, des éboulis avaient recouvert le radier de la rivière de Jaune. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait de la pluie, tous les éboulis qui étaient autour revenaient sur le radier, bouchaient la route, personne ne pouvait passer. Donc là, il y avait un jeu entre l'équipement et un entrepreneur avec un caterpillar qui venait, qui jouait dans l'eau, qui enlevait le déblai, l'eau ramenait le déblai, et on passait des heures dans cette situation. Tout le monde est descendu de Cantilène pour venir arrêter le travail de la machine. Mais l'eau était forte. Ça pouvait emporter un homme. Pour arriver à faire quelque chose d'un peu symbolique, tous les quatre cantilettes sont descendus dans l'eau, ils sont donnés la main comme ça. Comme ça. Et ils ont fait une chaîne à travers la rivière, devant le caterpillar. Et donc le gars d'équipement était obligé finalement d'arrêter les travaux. Qui reste là aujourd'hui, c'est tous ces gens, hommes, femmes, etc., qui veulent dénoncer une espèce d'abus des services d'entretien des routes, qui descendent dans l'eau boueuse jusqu'à la taille et qui se tiennent la main dans une grande chaîne comme ça. Mais au-delà de ça, l'idée c'était il faut une solution pérenne pour le chemin, quoi. Et c'est ce qu'on a eu un an et demi après ces événements-là. En 18 mois, on a eu le pont. Donc comme quoi, la cohésion, la solidarité entre les gens, il peut amener une solution des pouvoirs publics plus rapide, en faisant une forme de pression.
D'un Maloya, ça commence doucement. Et là, entre eux, on dit la pluie, il graine. Et là, il graine. Hein. Quand la pluie, il graine, il dit ça tombe. Quoi. C'est fou. Quand il y a la pluie, comme si c'est un monde nouveau. Tout change sous la pluie. C'était pour lui une espèce de bénédiction. Moi, quand j'étais petit, j'étais persuadé que la pluie, c'était pour laver les arbres.
On dit souvent ne pas sortir en temps de cyclone, mais on ne sait pas comment c'est dehors et moi j'aime bien savoir comment c'est dehors. Du coup, ce risque-là, c'est un truc que moi j'aime bien faire. Ça change du quotidien, ça met d'autres passages dans ta vie. Ça. C'est que du bon, c'est que du bon.
Là-bas, c'est pareil, quand il pleut ou après les cyclones particulièrement, il y avait des ravines dans lesquelles on avait l'habitude d'aller parce qu'on sait qu'après la pluie, elles étaient alimentées en eau. Donc après, quelques jours plus tard, on pouvait aller dans les bassins.
Mon frère a fait le même rêve et ma sœur aussi. Pas exactement le même, mais cette histoire de raz-de-marée sur l'étang Saint-Paul, là où j'ai habité après. J'ai vendu ma maison, en fait, je suis partie. La vague, elle était énorme et je l'ai vue de loin.
Il y avait une cascade qu'on visitait souvent, la cascade Biboum. Et elle est fermée, cette cascade, depuis 2 ans. En fait, la veille du jour... là-bas et j'ai eu une sensation de danger en fait vraiment et à ce moment-là j'étais avec une copine et je dis il faut qu'on s'en aille.
Même si c'est dangereux, même si c'est risqué, ben moi je. C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux découvrir en fait. Puis on découvre des endroits qui deviennent touristiques au fur et à mesure des années. C'est vraiment découvrir où on vit. Quoi. Observer et aller à l'endroit qui est le mieux. Par rapport à ce que j'ai observé. C'est-à-dire, tu vois d'un point de vue, tu vois un autre point de vue, tu te dis, ben, c'est là qu'il faut que j'y aille. Et vu qu'il n'y a jamais de chemin approprié, ben, personne ne le fait et moi je suis là pour ça. Et créole, comme dit, hein, créole, il n'aime pas rester sur place, il n'aime pas rester dans la facilité. Donc à nous, là. À nous, ce que nous fait, c'est que nous savons, nous découvre jusqu'au bout.